Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.
Le 19 octobre 2016, nous avons rencontré Francis Bellinga de l'association Un soir au village. Une association qui œuvre pour la promotion des cultures africaines et la solidarité internationale. Nous l'écoutons.
Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît.
Salut, bonjour à tous. Je suis Francis Bellinga. Je suis président de l'association Soir au village, culture et diversité. Cette association s'occupe de deux axes, des animations pédagogiques, ludiques et éducatives, d'une part, notamment dans les écoles, les centres de loisirs, les maisons de retraite, les centres pénitentiaires, partout où il y a vraiment une volonté de découvrir la culture, de partager, de vivre ensemble. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, cette association s'occupe des projets de solidarité internationale et de développement durable.
Alors, on va y revenir, mais je voudrais revenir sur toi. Tu es conteur.
Oui, je suis conteur depuis longtemps. Ça fait environ, en France, 17-18 ans que je fais les contes dans les écoles, les centres de loisirs. Étant donné qu'au Cameroun, je ne comptais pas beaucoup. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un besoin d'interculturalité. Un besoin de nous rapprocher de ce que nous ne connaissions pas. Quand je dis « nous », je parle au nom des Africains, des étrangers qui se reconnaissent dans ma démarche de rencontrer les autres et de vivre ensemble.
Et donc de partager une culture. Alors pourquoi avoir choisi de valoriser la culture de l'Afrique noire et comment vous valorisez ça ?
L'Afrique noire, parce que c'est elle que je connais. C'est l'Afrique noire, c'est l'Afrique de mon enfance. Il faut dire que je suis arrivé en Europe étant déjà adulte, dont j'ai eu la chance de vivre et de connaître la culture de mon pays d'origine. Et puis, la deuxième question, je ne me souviens plus.
C'est comment vous valorisez cette culture et vous nous la faites partager ?
Eh bien, c'est simplement par l'intermédiaire de ces ateliers de contes, chants, exposition d'objets d'art, théâtre, ateliers d'expression libre.
Un atelier culinaire aussi, j'avais vu.
Des ateliers culinaires, voilà, ça j'allais oublier.
Et pourtant, hein, ça passe souvent hein, par là. Hein. C'est un bon moyen de rencontre. Hein.
C'est vrai, les ateliers culinaires que les garçons apprécient particulièrement, les garçons adolescents, hein, parce que quand on arrive dans les endroits d'animation, dans les structures, et qu'on leur présente les ateliers, les filles vont au tam-tam. Et les garçons vont à l'atelier culinaire parce qu'ils savent qu'ils vont manger. Donc, c'est je trouve ça bien. Je trouve bien que vous soyez revenu sur l'atelier culinaire.
Je voudrais aussi que tu nous parles un petit peu plus de l'exposition parce que donc vous amenez des objets d'art africain dans les écoles. Et ça, c'est une démarche tout à fait originale.
Oui, nous avons la chance de posséder une collection d'objets d'art africain très anciens. Ce sont en majorité des masques et des statues d'origine. Il n'y a pas d'objet qui ait été refait. Ce sont des pièces uniques, mais qu'on peut trouver ailleurs. C'est-à-dire que ces objets ont servi à des rituels bien précis. Et nous proposons donc dans des écoles ce qu'on appelle des visites guidées commentées selon la nature, l'origine et la fonction de chaque pièce. Ça nous permet aussi de faire un pas vers l'autre côté du continent africain, de parler aux ancêtres s'il faut, et de leur dire que nous sommes là, nous les représentons malgré tout.
Et de continuer à transmettre.
De transmettre, là c'est la mission numéro un, c'est la transmission des cultures, la transversalité aussi, et le rayonnement commun lorsque nous aurons mis la culture à l'échelle humaine et qu'elle ne sera plus culture française ou culture canadienne, culture africaine, qu'elle ne sera plus appelée culture de telle que parce qu'elle a une vocation à aller vers les autres. Ce sera donc les cultures pour la culture.
On va aller vers votre deuxième axe qui est celui de la coopération internationale et là je vais passer la parole à mes collègues Johannes et Héloïse qui ont quelques petites questions à vous poser.
Bonjour.
Bonjour.
On voulait savoir quelles sont vos actions de solidarité internationale.
Pas très nombreuses aujourd'hui, c'est vrai, mais beaucoup d'idées. Aujourd'hui, nous avons commencé la mise en place des chantiers d'insertion au Cameroun. Et ces chantiers-là sont à vocation agricole et d'élevage. Ce sont des chantiers qui visent notamment des femmes peu ou pas instruites dans un premier niveau, puis les enfants handicapés et les enfants orphelins qu'on appelle enfants abandonnés aussi. Il est question d'autonomiser chacun d'entre eux, c'est-à-dire que à la base, chacun est autonome, justement, à une concession, un champ, des portions d'élevage, disons-le comme ça. Mais au sommet, on va s'agglomérer pour former une coopérative et défendre les intérêts de tout ce monde-là. Donc, c'est pour l'instant ce que je peux vous dire à propos de ces chantiers.
Comment choisissez-vous les ONG avec qui vous travaillez ?
Eh bien, il y a beaucoup de critères. Le premier critère étant celui de la portée humaine de l'action. Pas forcément humanitaire, parce que j'ai une autre idée des structures humanitaires, mais des structures à vocation humaine qui vont au-devant de la nécessité pour chaque individu de vivre du fruit de son effort, de vivre tout court. Parce que n'oublions pas que tous les individus ne sont pas à mesure de fournir du travail. Et dans cet ordre d'idées, la devise liberté, égalité, fraternité a un sens. Parce que fraternité veut dire que ceux qui travaillent, travaillent aussi pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Ceux qui sont en bonne santé font des actions pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont jeunes font des actions pour ceux qui sont un peu plus âgés. Ça, c'est un premier critère qui est celui de l'idéologie de l'ONG. Maintenant, de l'action réelle sur le terrain, l'efficacité, donc l'efficience. Savoir qu'un ONG peut naître avec son déploiement sur le terrain. Souvent, les objectifs sont déviés par tel ou tel motif. Donc, nous regardons bien l'historique, l'avenir et l'action sur le présent. Mais aussi, n'oublions pas la compatibilité par rapport à nous-mêmes pour ne pas nous retrouver dans des situations où nous sommes obligés de pactiser avec le diable. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les peuples n'ont généralement pas besoin d'aide en tant que tels. Les peuples ont surtout besoin d'être autonomes. Et l'aide internationale a tendance à se suppléer à l'effort et à la formation. Et ça, c'est dommage parce que les individus, pour être autonomes, ont beaucoup plus besoin d'autonomie que d'une aide, comme on a souvent appelé les chantiers clés à la main. Ça n'a pas de sens d'arriver parce que sociologiquement, il faut recenser les besoins réels. Les besoins réels de la population, ce n'est pas ce qu'on va nous apporter. Je vais prendre un exemple. On va regrouper des lits pour donner aux malades au Cameroun ou bien au Bénin, dans un village. On regroupe des lits qui ne servent plus en Europe. On les envoie dans ces pays-là, c'est bien. Mais la question est de savoir si c'est l'urgence en ce moment. Peut-être qu'en ce moment-là, les enfants meurent de diarrhée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'eau potable. Alors plutôt que de faire des lits pour les malades, il vaut mieux trouver les moyens de creuser des puits dans ces villages. Ça va régler radicalement le problème. Je vous donne ce point de vue-là, ce dessin, pour confirmer ce que j'étais en train de dire. Et l'aide internationale ne doit pas, puisqu'on a vu ce genre de cas, servir de prétexte à la domination et au retrait des souverainetés. L'aide internationale a souvent servi de mobile pour extorquer le peu qui reste aux populations locales. Ce sont des choses qui sont débattues au très haut niveau et pour l'instant, peut-être, je n'ai pas la compétence d'y accéder.
Toutefois, nous, on a vraiment apprécié ça dans la présentation de votre association. Donc, on le rappelle, c'est un soir au village. Mm-hmm. Vous parlez d'entraide et non pas d'aide apportée. C'est l'entraide. Alors, qu'est-ce que tu entends derrière ce mot-là ?
Merci. L'entraide ici est aussi une façon de parler de réciprocité. Ce qui est important de savoir, c'est que le fait pour une personne d'apporter une aide, qu'elle soit morale, matérielle ou spirituelle, à une communauté ou à une autre personne, cette aide-là possède en elle-même une rétribution. Parce qu'il y a une récompense morale, de facto, à partir du moment où on pose l'action d'aider. Parce que aider doit venir d'un bon sentiment et d'un sentiment réel. Si on ne part pas d'un sentiment d'autosatisfaction, l'aide est déformée au départ. C'est pour ça que je parle d'auto-rémunération.
Donc un des aspects de cette pensée internationaliste, c'est le fait que votre association fait partie de la Fédération française pour l'UNESCO.
Oui, j'ai choisi de faire partie de la Fédération pour l'UNESCO pour des raisons évidentes. Nous sommes une association qui tend vers le vivre ensemble, qui tend vers la paix, qui tend vers la formation, l'éducation. Et ce sont ces valeurs-là qui nous ont plu chez l'UNESCO, sachant que ce n'est pas en France que j'ai eu connaissance de l'UNESCO, c'est quand j'étais étudiant au Cameroun, il y a longtemps. Et j'ai vu des clubs UNESCO, je ne les fréquentais pas, mais c'est arrivé ici que j'ai pris connaissance de ces clubs-là. Et je me suis rendu compte que là-dedans, il y a vraiment un véritable élan de solidarité, de fraternité, et la volonté de pacifier le monde en commençant par la paix autour de nous. Et je me revendique Club UNESCO, évidemment, je ne cesserai pas de m'en revendiquer.
Un zoom sur un projet à venir qui te tient à cœur?
Oui, déjà faire évoluer plus densément encore cette association, en créant un grand village africain, sous quelle forme, je ne sais pas. Je vais déterminer les moyens qu'il faudra. Mais nous allons créer un gros festival qui s'appellera Soir au village d'Afrique, ou quelque chose comme ça, qui va nous permettre de réunir autour de nous des acteurs de l'interculturalité, comme l'association Soir au village.
Très bien, bien. Merci beaucoup Francis Bellinga. Pour retrouver les informations sur votre association, un site internet?
Le site internet est en construction. Nous avons un numéro de téléphone 0754 210 310.
Très bien. Et puis on invite nos auditeurs à nous retrouver prochainement pour parler de ce futur festival sur l'antenne de Radio pour l'UNESCO.
Merci beaucoup.
Cette émission a été enregistrée et réalisée par Johannes Yanala et Alexandra Joss pour Onde Courte, le média libre, social et solidaire. Retrouvez toutes nos émissions, Radio pour l'UNESCO, sur ondecourte.fr et sur le site de la Fédération française pour l'UNESCO.
Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.
Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.